Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième table ronde enregistrée en public lors du salon Mine de Livres qui s'est tenu le 10 octobre dernier à Blanzy, en Saône-et-Loire. Trois ouvrages aujourd'hui au programme. Tout d'abord, Le vol de la buse, le roman de Didier Cornaille, initialement paru en 1991 aux éditions de l'Armançon et que réédite les presses de la cité en cette année 2021. Une intrigue sur les méfaits d'une rumeur qui va agiter et bouleverser la vie d'un paisible village du Morvan. Vous découvrirez aussi un récit de voyage, celui d'Alain Lequien, qui durant 44 jours a parcouru à pied la Francigena, la voie qu'a inaugurée l'archevêque de Canterbury Sigéric il y a 10 siècles, partant de Rome où il avait reçu le pallium, symbole de son autorité épiscopale. Alain Lequien a suivi ses pas, parcourant 1134 km entre Calais et Aoste, en Italie donc, traversant également la Suisse. Un voyage passionnant à découvrir dans votre wagon livre. Ouvrons notre émission avec Claudine Vincenot et Olivier Delbar pour mettre en lumière les gouaches de Henri Vincenot réalisées au cours de ses voyages quand il était reporter pour La Vie du Rail, l'hebdomadaire des cheminots. Évoquons donc la beauté émouvante et mystérieuse des pays celtes que l'on retrouve dans un recueil publié cette année par l'Atelier des Noyers sous le titre « Voyage en pays celtes » et qui rassemble les gouaches de Henri Vincenot accompagnées de textes poétiques d'Olivier Delpart. Henri Vincenot est né en 1912 à Dijon, il est mort en 1985 et on le connaît surtout comme romancier, mais il se définissait plutôt comme un sculpteur et comme un peintre. Écoutons sa fille, Claudine Vincenot.
Oui, en effet, il a d'abord été connu par la peinture, parce qu'il exposait beaucoup à Paris notamment, et puis il a toujours sculpté aussi, déjà quand il était adolescent, dans des morceaux de liège, du bois flottant sur le réservoir de Pontier. Il a toujours dessiné, peint, et il a toujours écrit aussi, mais en fait il a été connu par l'écriture tardivement, puisque c'est avec le pape des escargots.
C'est en 1972 le pape
c'est
des
ça,
escargots.
Voilà.
Prix Sully Olivier de Serres.
Oui.
Et Claudine, il y a quelqu'un ici autour de nous qui a obtenu aussi
oui,
ce prix, c'est Didier Cornaille. Et pour Le vol de la buse, alors Didier, approchez-vous du micro.
Avec un différentiel de 20 ans tout de même. Hein.
Exact.
Puisque Le oui. vol de la buse a eu le prix Olivier de Serres en 92.
Alors on pourrait et c'était un grand plaisir, Didier, je suppose, de recevoir ce prix 20 ans après Henri Vincenot.
Tout à fait. Tout à fait, c'était ça le challenge. C'était
j'imagine bien votre enthousiasme et celui de votre éditeur Gérard Gauthier.
Gérard Gauthier, aux éditions d'Armançon, à qui il faut rendre hommage.
Alors Gérard Gauthier, on en parle, Gérard Gauthier aussi, Claudine. Mmh. Voilà oui. quelqu'un qui a eu un rôle important, notamment pour la diffusion et faire connaître l'œuvre romanesque de votre papa Henri Vincenot.
Oui, papa écrivait depuis longtemps. Et puis, un jour, en 1952, il avait déjà écrit des livres, mais qui n'étaient pas publiés. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'intitulait « Ceux du vendredi ». C'était une passion du Christ, mais transposée dans les temps modernes. Et moi, je m'en souviens très bien, parce que c'était quelque chose qui s'est joué avec des masques, parce qu'il n'y avait pas assez d'acteurs. Donc, papa modelait la terre glaise le soir à la maison. Nous, on découpait la tarlatane, on la trempait dans la colle Rémy. On a fabriqué les masques comme ça. Maman a fabriqué les vêtements. Et puis, la troupe de théâtre, avec cette pièce, s'est présentée au concours de théâtre universitaire et amateur à Paris, au théâtre Charles de Rochefort. Et la troupe qui s'appelait Les Compagnons de Tivoli, avec la pièce, ont eu le premier prix. Et il y avait dans le jury Charles Vildrac, Robert Canters, en fait des gens qui à l'époque étaient des personnages très connus du monde éditorial. Et ils ont demandé à connaître l'auteur de la pièce. Et papa, qui avait joué dans la pièce, qui était encore en costume et en masque, est venu se présenter. Et là, quand tous ces messieurs lui ont dit « Mais vous écrivez ?»« Oui, 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 j'écris. »« Et est-ce que vous auriez des manuscrits tout prêts ?» Et là, papa leur a dit « Oh, des manuscrits, mais j'en ai plein une armoire. » Alors, il est revenu à la maison en nous disant « Voilà, voilà ce qu'on nous demande. » On était fous de joie, nous, maman, les enfants, mes frères, moi et papa. Donc, il a cherché, choisi le manuscrit qui était le plus près à être édité, qui s'appelait « Je fus un saint ». C'était un roman d'adolescence en collège religieux. Et celui, Robert Canters, lui a dit « Moi, je vous édite chez De Noël, les éditions De Noël ». Et c'est papa a édité 3 livres qui n'ont pas été très connus, mais qui ont été réédités quand papa a été connu. Arbrousse-poil, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Et à ce moment-là, Gérard Gautier est arrivé aux éditions de Noël, parce qu'il était beaucoup plus jeune, Gérard, au moment du Peuple des Escargots. Et c'est Gérard Gautier qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que le livre soit connu, et papa avec. Et ensuite, c'est Robert Pivot qui a fait 7 ou 8 émissions d'apostrophe avec papa pour tous les livres qui ont suivi, dont La Bibaude, La vie des paysans bourguignons au temps de Lamartine, etc.
Les étoiles de Compostelle,
l'œuvre de Cher, Le sang de l'Atlas. Et Le sang de l'Atlas, justement, c'est intéressant parce que ça rejoint un ouvrage que nous avons réalisé aux éditions...
L'atelier des Noyers.
De l'atelier des Noyers, avec les aquarelles que mon père a fait après son séjour. Il a fait son service militaire au Maroc. Il a donc fait de très nombreuses aquarelles qui ont été éditées avec des textes pour les illustrer que j'ai rédigés parce que j'ai été professeur 15 ans au Maroc. Voilà. Alors, il ne faut pas que je me perde, Yannick, vous me rattrapez au vol.
Non, c'est parfait, Claudine, merci. Donc, rappelons effectivement l'atelier des Noyers, donc cette petite structure indépendante qui publie des ouvrages et qui propose des médiations autour du livre. Claudine, les gouaches reproduites dans Voyage en pays celte, oui. Ce sont des gouaches, c'est une collection privée qui est vôtre, qui est celle de vos frères également, à vous.
C'est à moi, oui, enfin, oui. Alors, ce qui s'est passé, pour ceux qui connaissent un petit peu l'évolution de l'écrivain, ça va comme ça De retour, d'abord il a toujours eu la nostalgie après 30 ans de vie parisienne de la Bourgogne, mais enfin disons que c'est quand même Paris qui l'a fait connaître. Là, il en était bien conscient. Et il avait une grande nostalgie de la Bourgogne. Ses grands-pères avaient été compagnons du devoir dans Forgeron, Bourrelier, Cellier. Et quand il est revenu en retraite, il aimait déjà beaucoup l'art roman et à Paris, il nous emmenait voir les tailleurs de pierre autour de Notre-Dame. Il a creusé la question et il s'est beaucoup renseigné sur le celtisme, sur les racines celtes de la langue française. Et puis, lorsqu'il était journaliste à la Vie du Rail, il a fait plusieurs reportages, dont un en Angleterre, en Écosse. Pays de Galles. Et il a fait toute une série de gouaches. C'était en 1970 à peu près. Et j'ai eu envie de les faire connaître parce qu'elles sont belles. Moi, je suis la fille du pape, alors c'est difficile de... je suis bien obligée de les trouver belles. Hein, j'admire mon papa. Mais vraiment, je les ai trouvées très jolies. Mais comme je ne connais pas ces pays-là, et que Olivier a beaucoup baroudé, enfin baroudé au sens noble, hein, beaucoup voyagé dans ces pays celtes, donc, qu'il connaît bien la mythologie celtique, qu'il est professeur de... Comment est-ce qu'on pourrait dire, Olivier ? Géographie environnemental, il a beaucoup étudié avec Kenneth White, si certains d'entre vous connaissent. Et je me suis dit, lui qui connaît, il est beaucoup plus à même que moi de rédiger, surtout qu'il a un sens poétique. Puis il est écrivain aussi, il va publier bientôt un roman qui s'intitule « La voix cendrée ». Qui est un très joli, je vous le recommande, un très joli livre, vraiment, vraiment.
Olivier Delbar, vous avez trouvé déjà votre attaché de presse. Formidable.
Donc, celui-ci, Voyage en pays celte, ben oui, voilà. Vous verrez que c'est très différent, si vous avez le temps de feuilleter. On sent la différence entre les aquarelles du Maroc... quand mon père était beaucoup plus jeune. Enfin, vous regarderez tout à l'heure.
Alors, les aquarelles du Maroc, elles sont aussi liées à l'époque du service militaire d'Henri Vincelot, 1933.
1933, et ça, c'est 1900...
Les années 80, moi, ce que j'ai lu dans le... C'est lié, les gouaches liées aux terres celtiques, aux îles britanniques, date de ses voyages dans les années 80, Claudine. C'est ce qu'il est écrit
en
à
gros,
la fin
voilà,
du...
voilà, hein, voilà. D'accord. Et donc...
Et donc, Olivier... a donné une illustration épique. Poétique, voilà. Épique, redonnant le souffle celtique à ces gouaches.
Tout à fait.
Qui prennent un Tout peu vie. Fait. Alors, Olivier Delbar, justement, ce projet vous a été apporté par Claudine ou vous l'avez sollicité ?
Je crois que c'est un peu Claire également, Delbar, qui a proposé, mais Claudine a été vraiment d'une... très très grande gentillesse et puis on se connaissait déjà avec Claudine, on a eu l'occasion de beaucoup échanger et en fait comme Claudine le disait, comme c'est l'Écosse, c'est un pays, une région qui me plaît beaucoup, que je connais bien, et bien Claudine a très gentiment, enfin j'étais très honoré qu'elle me confie les gouaches d'Henri Vincenot.
Alors Olivier Delbar, quand on parle de celtitude,
oui.
Est-ce que vous pourriez délimiter, définir, autant que faire se peut.
Ouh là là.
Bien sûr, ce terme de celtitude. Il en est beaucoup question dans l'œuvre romanesque. Hein,
oui, oui,
le
oui.
Pape des Escargots, la Gazette revient sur, j'allais dire, à son sens, ce qu'il appelle les fondamentaux du celtisme. Il parle aussi de celtitude. Alors, je sais bien que la question est ambitieuse, Olivier Delbar, mais je vous donne ce petit sujet de réflexion et je vous prie de l'aborder en 3 minutes chrono.
Alors, rapidement, d'abord, je fais quelques clins d'œil dans le texte, dans la première partie du texte où... Il y a évidemment pour moi des points communs entre la Bourgogne et le monde celte, notamment l'Écosse et le Pays de Galles avec ses collines arrondies, donc la terre burgonde. Nous sommes une région celte également. Après, la celtitude, c'est compliqué parce que le continent européen a été largement peuplé de tribus celtes. Mais moi, il y a un mot que j'aime bien par rapport à la celtitude, c'est l'excentricité. On parlait beaucoup de l'excentricité celte, notamment quand les terres celtes ont été peuplées par les Angles, les Saxons. Le celte était perçu comme un personnage excentrique qui aime... Alors, il y a tous ces clichés, évidemment, hein, qui aime la musique, qui aime le chant, qui aime un rapport à la nature, une forme... Pas du tout des peuples désorganisés, comme on l'a très souvent dit. Hein. On a souvent dit, oui, les Celtes n'étaient pas assez bien organisés, ils se sont fait envahir par les Vikings, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est cette idée d'excentricité et cette idée d'une célébration de la terre. Il y a une poésie celte très ancienne, hein, gaélique, etc., qui est magnifique, qui est une poésie vraiment qui est très très liée à la terre, aux couleurs, aux formes de la terre. Voilà.
Mais oui, d'ailleurs, la terre, vous en parlez, c'est intéressant parce que la Gazette, à un moment, dit qu'il faut marcher nu-pieds pour reprendre contact avec la terre mère, la terre nourricière. Et si on prend aussi au niveau de l'art celte les objets d'art celte, sont très sinueux, alors que par exemple dans l'Antiquité romaine il y a plutôt l'idée de rectitude, alors que chez les Celtes, vous parlez de ce côté un peu fantaisiste, les objets sont assez sinueux, comme les petits chemins celtes d'ailleurs.
Oui, peut-être comme les danses aussi.
Oui.
Oui, alors voilà. Après, moi, ce qui me plaisait dans le texte, c'était un petit peu ces clins d'œil à Henri Vincenot et jeter les ponts justement entre... Ça, cette attitude à lui, et puis ce que ces gouaches m'inspiraient vraiment.
N'était-ce pas un petit peu dangereux ? L'exercice n'était-il pas un peu périlleux, confronté au gouache du père La Bourgogne, de ce bar de Bourguignon, accompagner ces gouaches de textes poétiques ? Ce devait être...
Je l'ai fait de manière, je pense, assez discrète. Et puis le texte, dans une deuxième partie, part aussi, enfin, s'échappe aussi, parce que quand on écrit à partir d'un travail pictural... On est forcément happé, et j'ai beaucoup aimé la composition, les couleurs. Je leur trouve aussi un petit côté extrême oriental, il y a un petit côté japonais avec ces petits personnages dans des immensités de nature. Mais après, la deuxième partie du texte, je m'en éloigne aussi et j'essaye de... Voilà, je pars un peu sur l'Écosse et je vais jusqu'au bout de la terre, de l'Écosse, qui pour moi est un peu le bout de l'Occident, le bout de l'Europe. C'est une terre aussi qui est rude, hein, qui est âpre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le mouvement, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les gouaches d'Henri Vincenot représentant des paysages celtiques ou des paysages des îles britanniques, on rentre dans le décor. Et vous, dans vos textes, on a l'impression que c'est justement le décor qui rentre en vous. Il y a l'idée d'une pénétration un peu des paysages, de l'air iodé, c'est les odeurs, c'est les couleurs qui rentrent en vous. Une espèce d'appropriation de la beauté naturelle du décor qui vient enrichir, embellir presque l'intérieur du corps et de l'esprit.
Je crois que c'est ça. Et pour un auteur, on a souvent l'habitude plutôt de donner des textes à des illustrateurs. Et moi, j'aime beaucoup aussi le travail à partir d'un travail d'illustration parce que ce sont des contraintes desquels il faut savoir s'échapper, parce qu'il ne faut pas rester non plus dans l'illustratif. Et je trouve que c'est un travail intéressant en tant qu'auteur, justement, d'être à la fois imprégné, comme vous le disiez, du travail pictural, et en même temps s'en échapper et développer sa propre... J'ai mes thématiques et voilà, sa propre logique. Mais en même temps, je suis vraiment... Plus je les vois, ces tableaux, plus je les trouve d'une intemporalité, d'une force discrète, mais très, très forte. Voilà,
et ces paysages celtiques des îles britanniques ou de l'Écosse, les glens, les lochs, etc., etc., ont en commun avec la Bourgogne, vraisemblablement, alors là encore, une thématique très chère à la Gazette, les forces telluriques.
Les forces telluriques, ce sont les roches parmi les plus anciennes du continent européen. Hein. L'Écosse, c'est aussi un socle de terres extrêmement anciennes, de roches extrêmement anciennes. Les forces telluriques, c'est aussi dans le monde celte, il y a toute cette vision des forces, mais comme dans beaucoup de cultures... je dirais ancienne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le pont qui était jeté entre la Bourgogne et notamment l'Écosse, qui est, je trouve, une terre aussi dont, comme je le disais, la géographie, les formes sont un peu semblables.
Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on pourrait me dire, tiens, mais pourquoi aussi le celtisme ? Il y a une raison dans l'enfance de papa. Parce que, il était bourguignon, il avait fait ses études à Paris, il connaissait l'Afrique du Nord, pour y être allé avec ses parents en voyage quand ces pays-là étaient encore des colonies. Et puis, il a fait son service militaire au Maroc. Mais il avait également eu à Dijon, à 12 ans, une pleurésie grave. Et à l'époque, la pénicilline n'existait pas. Donc, un enfant pouvait mourir d'une pleurésie. D'ailleurs, papa est décédé à 85 ans d'un cancer de la plèvre.
En n'ayant jamais fumé.
Pas 85 ans, 73 ans.
En n'ayant jamais fumé.
Oui, voilà. En n'ayant jamais fumé et même pas tellement bu comme un bourguignon. Hein. Il était vraiment épuisé. Alors, comment le soigner ? Le docteur a dit, il faut aller en Bretagne respirer l'iode. Donc, mes grands-parents ont trouvé une petite location à l'époque dans la baie de Saint-Brieuc. Et là, papa, mes grands-parents aussi, mais papa surtout, qui avait une imagination un peu délirante, comme tout artiste, a découvert l'horizon breton, la terre bretonne, la végétation. Et aussi le langage breton. Et il a connu toutes les épopées de la mythologie celte par les conteurs et les conteuses qui passaient de village en village. Et ça l'a vraiment beaucoup impressionné. Voilà, c'est aussi une raison importante de son appel vers le celtisme.
Et puis, je crois qu'on peut se laisser, pour paraphraser Olivier Delbar, se laisser ensauvager par ces paysages qui, je l'espère, sont toujours aussi purs que ceux que Henri Vincenot a représentés aujourd'hui, oui, à moins qu'ils commencent déjà à être abîmés. Mais
l'Écosse est une terre pauvre. Le dégât principal sont plutôt les puits de pétrole offshore ou sur les Shetland, qui sont d'un archipel au nord de l'Écosse, où là on a beaucoup de puits de pétrole qui ont surgi dans les années 70 à peu près. Mais sinon, les Highlands, notamment l'Écosse du Nord, c'est une terre qui est restée extrêmement aride, très très sauvage, une des terres les plus sauvages d'Europe d'ailleurs. Et ce qui est très étonnant quand on se promène dans les Highlands, où le sommet, le Ben Nevis, doit être à 1300 mètres, si je me souviens bien, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un paysage totalement polaire, avec vraiment les lochs, ou les lochs, comme disent les Écossais, qui traversent le paysage. C'est une terre qui est restée, oui, très largement intacte, qui est d'ailleurs intacte aussi dans son identité, comme vous le savez probablement aujourd'hui, qui essaye d'affirmer une différence par rapport à ses voisins, à son voisin du sud, l'Angleterre. Donc c'est quand même il y a une force de caractère qui est très grande.
Olivier Delbar, à l'instant enregistré lors de la deuxième table ronde du salon Mine de Livres de Blanzy, qui s'est tenu le 10 octobre dernier. Je rappelle le titre de ce recueil qui rassemble des reproductions de gouaches de Henri Vincenot, accompagné donc de textes poétiques d'Olivier Delbar. Ce recueil a pour titre « Voyage en pays celte » et il est disponible en librairie à l'atelier des Noyers. C'est Wagon Livre sur votre radio locale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, on se retrouve juste après la pause musicale pour entendre l'enthousiasme de Didier Cornaille, qui a vu cette année rééditer son tout premier roman aux presses de la Cité. Il s'agit du Vol de la Buse, un roman qui initialement avait été retenu et publié aux éditions de l'Armançon par Gérard Gauthier. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Posiez mes godasses, posiez sur ma joue.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je me tourne cette fois-ci en direction de Didier Cornaille. Mon cher Didier, vous êtes heureux de voir réédité aux presses de la Cité Le vol de la buse, parce que finalement, l'aventure littéraire de Didier Cornaille, combien de romans à l'heure actuelle ?
30.
Plus de 30, hein, 30.
Il y a 30 ans, c'était le premier.
Et c'était le premier, paru aux éditions de l'Armançon.
De l'Armançon, c'est Gérard Gauthier qui faut rendre cet hommage, qui a pris le risque de me publier pour la première fois. Puis ça a marché, qu'est-ce que vous voulez ?
Et donc, on le rappelle, ce prix Olivier de Serres qui finalement vous a couronné très vite, premier roman, un prix qui n'était d'ailleurs pas n'importe quel prix.
D'après le rédacteur en chef du journal de Saône-et-Loire, du courrier de Saône-et-Loire de l'époque, Michel Limoges, que certains connaissent, c'était pas une médaille en chocolat. C'était une vraie récompense. Ces prix-là avaient une importance qu'ils n'ont plus. D'ailleurs, il a disparu, le prix Olivier de Serres. Et qui avaient leur importance et qui permettaient tout de même de d'éclore un petit peu. Et c'est certainement ce qui m'a permis d'entamer des rapports avec des gens comme les Presses de la Cité, chez qui je travaille toujours, 30 ans après, et de publier des romans. Mais je publiais aussi déjà à l'époque des guides de randonnée qui m'avaient mis en rapport avec ces gens-là. J'ai publié beaucoup d'autres choses.
Alors Didier Cornaille, dans Le vol de la buse, on retrouve les préoccupations du Didier Cornaille que l'on connaît, à savoir faire vivre les villages du Morvan, qu'il continue à...
À l'époque du vol...
Oui, parce qu'on est en 91, oui.
Oui, publication en 91, écriture dans les années 80, en dilettante. J'ai écrit ce bouquin vraiment en dilettante. On ne parlait pas de la préoccupation de faire vivre les villages. On parlait de peut-être les faire survivre. Et des gens comme la DATAR, vous connaissez la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire, écrivait bien plus tard, dans les années 90, début des années 2000, écrivait encore que dans les zones rurales les plus difficiles, les villages sont appelés textuellement à disparaître. Et c'est déjà dans Le vol de la buse, moi j'y croyais pas. Et je pense que l'histoire m'a donné raison.
Alors dans Le vol de la buse...
Elle est en train de me donner raison, soyons modestes.
Dans Le vol de la buse... Il y a ce personnage de la buse aussi, Didier Cornaille, qui observe les hommes depuis fort longtemps. Et elle les observe avec curiosité et elle est aussi un peu témoin des changements.
Tout à fait. Cette buse, elle existe.
C'est-à-dire
l'anecdote est très rapide à raconter. J'emmenais mes filles à l'école tous les matins. Elles étaient grandes comme ça à l'époque. Je suis grand-père maintenant, largement. Et pour quitter la maison, pour rattraper la route, il y avait un chemin... qui a été bitumé depuis, quel malheur, assez long. Et le long de ce chemin, il y avait quelques poteaux télégraphiques. Et tous les matins, la buse, elle était sur un des poteaux, toujours le même. Et elle nous attendait, littéralement. Puis quand la voiture approchait, elle s'ébrouait un coup, et hop, et il y avait ce vol extraordinaire. Elle se lançait dans le vallon, dans la vallée qui était en dessous, un grand vol plané, très... très, très, très large, très onctueux, comme ça. Et elle disparaissait comme ça. Et quand j'ai écrit le livre, cette image de cette buse que je voyais tous les matins m'est revenue à l'esprit. Elle est dans le livre.
Alors,
existe toujours, d'ailleurs.
Il s'agit d'un village morvandiaux qui va être inquiété par des projets un peu flous au départ. Mais c'est aussi un peu la rumeur qui fait boule de neige.
La rumeur.
C'est la rumeur.
C'est le mot, la rumeur. Et c'est, au fond, tout le sens du livre, c'est cette rumeur qui existe encore.
Oui.
Ça s'appelle les fake news.
Oui, mais c'est parce que vous êtes un homme branché, Didier Cornaille,
fake encore. News. Mais il y a un rapport. Ce sont des inquiétudes collectives qui se lèvent pour des raisons qui ne sont pas toujours d'ailleurs là, au fond, il n'y a pas de vraie raison. Mais simplement, il y a un géologue qu'une société très parisienne, donc complètement inconsciente des précautions à prendre et que les populations locales qui ne comptent pas pour elles. Une société envoie pour étudier le terrain. Et Dieu sait si on en a eu dans le Morvan. Bon, il se trouve que, vous le savez probablement, le Morvan est un bloc, d'une part, d'uranium, d'autre part, de certains minéraux comme la fluorine, mais pas seulement. Toutes choses dont, heureusement, pour l'instant, on se passe chez nous. Le jour où on aura besoin d'exploiter nos ressources, le Morvan, bouf, il va éclater, le Morvan. Ça, je vous le prédis. Et déjà, à l'époque, cette crainte existait de voir utiliser l'espace à des fins absolument pas rurales. Plus, existant aussi à l'époque, comme disait Le Tien, mais je ne fais que rapporter les propos du Tien, personnage principal de ce roman. Il fallait rassembler de l'eau pour le cul des Parisiennes. C'est son expression, c'est pas la mienne. Hein.
C'est dans le roman, oui. Et Le Tien, c'est un personnage qui vous a été inspiré par quelqu'un qui a réellement existé.
Oui. Strictement entre nous, ça reste entre nous. Hein. Le Tien, c'était Étienne Lemoine, personnage extraordinaire que j'ai découvert et qui m'a découvert surtout quand je suis arrivé dans le Morvan, un des tout derniers ayant vraiment vécu la Galvache. Qui a disparu avec la guerre, les derniers ont disparu avec la guerre. Il est parti, d'ailleurs, au moment de la première mobilisation de 1939, il a vendu ses bœufs dans les Vosges. Il était dans les Vosges avec ses bœufs. Il les a vendus là-bas. Et puis, il s'est retrouvé coincé dans son pays à ne plus voyager, etc. Et ce type avait une... Lui et sa femme, d'ailleurs, ils avaient une capacité à assimiler tout ce qu'ils lisaient. Ils lisaient en permanence. Ce qui est rare pour des petits paysans comme ça. Et ils assimilaient. Et sa façon de restituer les choses, c'est quelque chose de passionnant. Et quand je suis arrivé, Le Tien, il en était au point de se dire, comme sa femme, la Renée, faut pas oublier la Renée. J'ai accumulé beaucoup de choses, mais ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Ses enfants, ils s'en foutaient complètement de tout ça. Puis il a vu débarquer cette espèce de Parisien un petit peu farfelu, là, un petit peu, on disait 68 arts à l'époque. C'était moi. Avec ses enfants. Et celui-là, c'est lui qui va... Et il m'a restitué toute l'histoire du pays, mais vu par le bas, vu, et ça n'a rien de péjoratif ce que je dis là, hein. Au contraire, par la base. Bon, après, il m'a fallu conforter tout ça, il m'a fallu confirmer tout ça, mais j'étais journaliste, je savais faire, hein, faire la preuve. Hein. Il y a d'autres personnages dans le pays, Jean Bilon, André Badevant, maire du pays à l'époque, et bien d'autres, qui m'ont aidé à ça, qui ont compris mon souci de saisir l'histoire profonde du pays. Mais à l'origine, il y avait Le Tien Lemoine.
Mais Le Tien et la Buse ont quelque chose en commun, c'est l'espace. Être maître de l'espace.
Ça, vous,
ou esclave.
Maître de l'espace ou esclave, vous l'avez lu quelque part, ça, hein? Dans le livre.
Oui, c'est dans votre roman, tout à fait. Et ils ont ça en commun. Et Tien, c'est un peu, Didier, si je puis me permettre, un peu une figure de Gaulois réfractaire.
Par le fait de la...
Il est rebelle. Et courageusement rebelle, d'ailleurs.
Pas nécessairement rebelle.
Il prend des risques.
Sûr de son droit. Et l'assumant. Pleinement. Son droit et ses obligations, par conséquent. Et ces gens-là, effectivement, ont vu réellement monter cette espèce de crainte. Ils ne savaient pas très bien de quoi, parce qu'on se gardait bien de leur expliquer, bien sûr, de voir leur terrain transformé en usine d'extraction de fluorine ou d'uranium, ils ne savaient pas ce que c'était, hein. Ou aussi voir se créer ces lacs, donc, en fait, comme par exemple le lac qui est à côté de Saulieu, dont le nom va... Le Chaumson? Non, c'est pas le Chaumson. C'est celui qui est juste avant Saulieu.
Pannecière?
Non, Pannecière est nettement en dessous. C'était des lacs qui étaient créés pour créer des réserves d'eau pour les villes. Hein? Chambou, le lac de Chambou. Grande inquiétude pour eux. Ce géologue qui traîne par là, qui vient casser des cailloux comme ils le font tous partout. Hein, y a pas de... J'en avais rencontré au fin fond du Sahara ou ailleurs, ils font tous la même chose. Et lui, il était pour rien, ce pauvre homme. Oui, mais il veut pas tout nous dire. Et c'était vrai. Il avait mission de ne rien dire. Mais en plus de ça, il n'avait pas grand chose à dire parce qu'il ne savait pas, en fin de compte. Et c'est lui qui va se retrouver pris entre le feu jusqu'au drame, puisqu'il va être, peut-être pas la peine de révéler le livre, mais il va être enfermé dans une cabane au fond des bois par Le Tien, qui veut se venger, mais qui veut surtout savoir, qu'on leur dise. Et puis il y a les dégâts, mais dégâts qu'on pourrait constater encore de nos jours, de la rumeur. Quand une rumeur se saisit comme ça d'une collectivité, ça peut créer de gros dégâts. Ça existe encore, sous d'autres formes. Puis il y a d'autres noms, je lis sur les fake news.
Inévitablement, il y a aussi toute une catégorie de personnages. Alors il y a ceux qui spéculent aussi sur cette terre morvandelle, hein, qui veulent racheter les terres
oui,
à bas prix.
Ce vent de panique, alors il y a surtout la catégorie que vous allez rencontrer dans tous les pays, un peu comme le Morvan, dont beaucoup de gens sont partis, ils ont hérité, ces gens-là. Et donc la propriété de souvent toutes petites parcelles, foutu le camp en ville. Et brusquement, ces gens-là apprennent que on va nous créer un lac à la place de nos terres, on va nous creuser une... Et il s'empresse de vouloir vendre. Et le notaire, bien sûr, belle affaire pour lui. Hein. Et il y a toujours des acquéreurs. Le gars qui va acheter en disant, oh là là, ça va être noyé dans un lac, vous savez, ça vaut plus rien du tout, votre bois, je vous achète ça, je vous donne 3 sous, et puis c'est tout. Mais qui a passé un accord bien avant avec le forestier du coin, et qui va lui revendre ça bien plus cher.
Alors il y a aussi de la jeunesse, il n'y a pas que des vieux dans ce roman, parce que c'est aussi un Morvan, des vieux qui restent dans le Morvan, qui voient le pays, si je puis me permettre, foutre le camp. Ouais. Il y a aussi l'avenir avec le jeune Tricot, 28 ans, mais alors formé aux nouvelles méthodes d'approche et d'exploitation des terres.
Il vit avec son temps, donc effectivement, nouvelle de, il n'a pas encore conscience. Il va le trouver dans un autre roman qui reprend le Pierre Tricot dans La Blandine. Il n'a pas conscience encore des dégâts que la modernité va faire dans leur métier. Mais Pierre est simplement un jeune qui a décidé de ne pas partir. Et il y en a beaucoup qui ont décidé de rester. Beaucoup. Pas beaucoup. Mais il y en a un certain nombre notables en tous les cas.
Oui, hein, il reprend le flambeau, même si le père ne comprend pas toujours les démarches modernes, technologiques.
C'est dur. La vie n'est pas facile. Mais ils ont choisi, c'est un choix, de rester au pays. Et ceux-là, ils vont être témoins d'une évolution dont je dis qu'elle n'est pas totalement négative. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais qu'elle est à reprendre sur beaucoup de choses, quoi.
À l'instant, Didier Cornaille enregistré lors de la table ronde du salon Mine de Livres qui se tenait le 10 octobre dernier en Saône-et-Loire, très précisément à Blanzy. Didier Cornaille qui évoquait donc la réédition de son premier roman, Le vol de la buse, disponible en librairie aux presses de la Cité. Et puis, je précise également qu'en cette année 2021, courant mars de cette année, Didier Cornaille a également fait paraître un nouveau roman intitulé « Gentille Blandine » dont nous avions parlé en son temps sur Radion dans votre émission littéraire. On se retrouve juste après une nouvelle virgule musicale qui ponctue notre rendez-vous et nous serons avec Alain Lequien, dit Bourguignon la Passion, pour son récit de voyage intitulé « Sur les pas de Sigéric, la Francigena de Calais à Aoste, 44 jours, 1134 kilomètres. » Excellente fin de matinée sur Radion. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire
we
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de partager cette fin de matinée avec l'émission littéraire de Radion, émission au cours de laquelle nous vous proposons la diffusion de l'enregistrement en public de la deuxième table ronde organisée par les bénévoles du salon Mine de Livres qui s'est tenu le 10 octobre dernier. C'était en Saône-et-Loire, à Blanzy très précisément. Et nous allons maintenant découvrir un récit de voyage, celui d'Alain Lequien, qui durant 44 jours a parcouru à pied la Francigène, c'est-à-dire la voie qu'a inaugurée l'archevêque de Canterbury, Sigéric, il y a 10 siècles, partant de Rome, où il avait reçu le pallium, c'est-à-dire le symbole de son autorité épiscopale, et qui repartait en Angleterre, pays alors catholique, très précisément à Canterbury. Eh bien, Alain Lequien, lui, a fait le voyage inverse, hormis le fait qu'il n'a pas pu partir de Canterbury, puisque en cette année 2020, au moment où il débute son parcours, c'est une année qui est touchée par la Covid-19. Donc, Alain Lequien, durant 44 jours, a marché entre Calais jusqu'en Italie, à Aoste, en passant par la Suisse, Lausanne, le col du Grand Saint-Bernard, et il n'a donc pas pu partir de Canterbury. Et je vous propose d'entendre Alain Lequien, enregistré donc le 10 octobre dernier, évoquer le sens de ce cheminement, de ce parcours en solitaire. Alain Lequien.
À l'époque, l'Angleterre était catholique, donc il est allé chercher le droit d'exercer son office d'archevêque.
Et donc, vous n'êtes pas parti de Canterbury parce que malheureusement, vous vous êtes trouvé empêtré par la pandémie de Covid. Donc, vous êtes parti de Calais.
Calais, oui, parce que lorsque j'ai voulu aller en Angleterre, on m'a dit, vous restez 14 jours. Donc, ce n'était pas possible. Donc, je suis parti de Calais. Voilà.
Jusqu'à Aoste, 44 jours et 1134 kilomètres. Alors, Alain Lequien, il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu ce qui vous pousse à sans cesse marcher, à vous arrêter, alors tantôt dans des abbayes, dans des petits gîtes, faire des rencontres comme ça sur les chemins. Il faut dire aussi que vous avez fait le chemin de Saint-Jacques.
À 8 reprises, oui.
Oui.
À 8 reprises, j'ai fait à peu près 16 000 km sur les chemins de Saint-Jacques, à peu près 600 jours de marche, donc en 8 fois. Donc à partir de la France, à partir de l'Espagne, à partir du Portugal. Donc j'ai quasiment fait tous les chemins possibles vers Compostelle. Et à un moment donné, effectivement, Compostelle étant devenue une autoroute, peut-être que je n'y retrouvais plus tout à fait les sensations de solitude et de réflexion que je trouvais, eh bien, j'ai choisi effectivement de faire un autre chemin nettement moins connu, qui est effectivement ce pèlerinage de la Francigena.
Alors la Francigena, donc, normalement, Canterbury jusqu'à Aoste, la difficulté est là.
Oui, alors, le chemin, normalement, va jusqu'à Rome.
Ah oui.
Mais en fait, je me suis effectivement arrêté à Aoste, fatigué. Donc j'ai préféré rentrer. Et il se trouve que quelques semaines après, j'ai eu un accident cardiaque et avec triple pontage, etc. Donc effectivement, j'ai bien fait de rentrer.
Alors vous dites que le chemin permet une introspection personnelle et en vous accompagnant, vous dites aussi que ce voyage apprend la tolérance. Ce qui est beau aussi, ce sont les rencontres de celles et ceux qui parfois vous hébergent gratuitement, c'est donativo.
Voilà. Alors il y a effectivement le long du chemin un certain nombre d'endroits où on peut dormir. Ça peut être des familles accueillantes, ça peut être effectivement des couvents, et puis voilà. Et parfois effectivement, ce sont des gens qui sur le chemin, vous voient peut-être parce qu'il pleut, parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes seul aussi. Donc la solitude compte beaucoup. Et donc, vous invite, en fait, d'abord à boire un café, puis ensuite, vous dites, eh bien, écoutez, vous n'allez pas repartir, j'ai la chambre de mon fils qui est libre, où vous allez pouvoir dormir dans le garage. Et donc, vous invite, et de façon de façon presque fraternelle, en fait.
Oui, il y a une grande confiance. Et puis, vous parlez souvent, alors il y a un terme, pour remercier celles et ceux qui vous ont accueillis, que ce soit en moyennant 20 euros ou gratuitement, vous parlez souvent de leur engagement. Et j'aimerais bien que vous expliquiez ce que vous mettez derrière ce terme d'engagement.
Alors, engagement, ça veut dire que ce sont, vous parlez en fait, je pense, des engagements de moi-même ou de l'engagement des gens qui nous reçoivent.
Alors, plutôt de l'engagement de celles et ceux qui vous ont accueillis.
Oui. Alors, pour moi, la plupart du temps, ce sont d'anciens pèlerins qui ont fait effectivement Compostelle ou d'autres pèlerinages. Mais c'est aussi ce que j'appelle, moi, les pèlerins immobiles, c'est-à-dire des gens qui vivent en quelque sorte le voyage que l'on fait, le vivre au travers de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils auraient envie de faire et qu'ils ne font pas. C'est-à-dire, il faut quand même, à un moment donné, décider de partir, donc de laisser son activité, d'être prêt même physiquement. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas partir, tout simplement par leurs engagements, mais aussi parce qu'ils sont malades ou ils sont handicapés. Donc, ils ne peuvent pas partir. Donc, au travers du voyage, au travers des rencontres qu'ils font de personnes comme moi, effectivement, ils revivent quelque part quelque chose qu'ils auraient aimé envie de faire.
Vous écrivez « Marcher sur un chemin de pèlerinage », c'est aussi penser, réfléchir, se recueillir sur les lieux tragiques où sont tombés les défenseurs de la liberté.
Oui, alors là, c'est vraiment spécifique à la Francigena, parce que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai traversé le nord de la France, c'est de voir effectivement tous ces endroits détruits, ces endroits où il y a des cimetières, par
militaires.
Exemple des cimetières de combattants qui ont été avec les Alliés de 14-18, oui, de 14-18 qui effectivement sont morts pour notre liberté. Et à côté, il y a le cimetière des Allemands, qui au lieu d'être des croix blanches sont des croix noires, et qui et tout ça crée en fait une sorte d'émotion que je n'ai pas trouvée sur les chemins de Compostelle. C'était vraiment très différent.
Vous passez à Péronne, enfin des hauts voilà. lieux.
Voilà tous les hauts lieux.
Craon, enfin des lieux qui marquent la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale.
Qui marque la Grande Guerre, qui marque ces dizaines de milliers de personnes qui, au cours même d'une seule bataille, ont pu effectivement laisser leur vie pour qu'on vive, nous, en liberté. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui donne une autre dimension à la réflexion. Je marche beaucoup seul, parce que c'est pour moi un instant de solitude, effectivement, d'introspection, de réflexion sur la nature, de réflexion... Oui. Effectivement, sur soi-même aussi, revisiter un petit peu sa vie aussi. Quelquefois aussi, les rencontres, c'est un miroir qu'on vous renvoie par rapport à ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert et qui souffrent et qui continuent à souffrir. Là aussi, ça redonne une autre dimension. Et vous voyez, la Francigena, c'est vraiment quelque chose de différent de Compostelle. Parce que, d'abord, on n'est pas nombreux, on est quasiment... Je suis très souvent, très, très souvent seul. Je passe très souvent par les chemins romains, et donc pas obligatoirement par les chemins qui existent aujourd'hui, qui sont dans la Francigena officielle, qui passent par des endroits où il y a des accueils, etc. Donc quand, effectivement, vous marchez 4 ou 5 jours sur des chemins romains où finalement il n'y a pas d'hébergement, eh bien vous vivez véritablement autre chose.
Et évidemment, en vous suivant, c'est aussi le rappel d'une France et de ses merveilles. Alors, les édifices religieux, les architectures des églises, des cathédrales, vous émeuvent et vous intéressent particulièrement. Et pourtant, on n'a pas le sentiment... Alors, on peut aimer, bien sûr, l'architecture des églises sans appartenir à quelque religion que ce soit. Au contraire, vous semblez même très ouvert, très intéressé par les religions des autres. Mais vous-même, vous assistez parfois à des cultes, plutôt des cultes catholiques. Mais vous ne semblez pas très frotté de religion, en fait. On a l'impression que c'est pas que vous la mettez... Vous n'en parlez pas beaucoup, en tout cas. C'est parce que ça relève d'une démarche personnelle, intime.
Oui, c'est une démarche personnelle. Je suis plutôt déiste qu'athéiste. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter une religion donnée avec tous ses dogmes, quelle que soit la religion, je préfère avoir pensé qu'il existe quelque chose qui nous est supérieur, sans obligatoirement lui donner le nom de Dieu. C'est ce que j'appelle la spiritualité, en fait. Hein. Je suis plutôt dans une spiritualité. J'ai eu la chance de marcher sur les chemins de Compostelle avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des religions très différentes. Je suis très intéressé par les religions anciennes, le mazdéisme, des religions qui datent de 3000 ou 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc effectivement, tout ça vous nourrit différemment que de l'acceptation d'une seule religion. Ça n'empêche pas qu'on peut être ouvert, justement, à l'acceptation qu'il peut y avoir des réflexions très différentes. Et donc j'accepte en fait tout le monde, qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il ait envie de ne penser que nature. Je suis un petit peu, pour rejoindre tout à l'heure ce que disaient Claudine et
Olivier Delbar.
Voilà, Claudine Vincelot. J'ai été nourri des étoiles de Compostelle. J'ai eu la chance de rencontrer Henri dans les années 80. Et nous avions discuté. J'étais un petit peu en désaccord sur la partie, effectivement, peut-être un peu trop celtique qu'il donnait, effectivement, à l'intérieur. Mais ça, c'est ma perception des choses. Et j'ai trouvé qu'au travers, justement, des étoiles de Compostelle, mais ce que j'ai aussi pu voir, moi, sur le chemin, et notamment la Francigena, c'est effectivement cette ouverture, cette acceptation, de quelle que soit la religion, quelles que soient les croyances, finalement.
Claudine Vincenot.
Oui, je voudrais ajouter que j'avais été très étonnée. Moi, j'ai fait une partie du chemin de Compostelle, du col de Roncevaux jusqu'à Burgos. Parce que ensuite, je devais aller à Paris pour le premier livre. Et ce qui m'a vraiment étonnée et émue, hormis tout ce que vous avez dit, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des extraits des étoiles de Compostelle qui étaient affichés aux étapes. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ça, que... En fait, c'était un livre qui avait incité des gens à marcher. Et je rejoins aussi tout à fait ce que dit Alain, à savoir que, oui, on fait aussi l'expérience d'une conception de l'univers et de l'humanité et de l'incompréhensible pour un cerveau humain qui est au-delà des religions et des croyances qui existent. On a accès à l'incompréhensible et c'est vraiment un voyage très 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 instructif et émouvant et fatigant.
Et puis ce qui est amusant aussi, alors il y a des passages qui sont assez souriants, Alain Lequien, sur les pas de Sigéric. À un moment vous êtes assis sur un banc, vous devez grignoter et il y a quelqu'un qui vous apporte un peu de nourriture qui vous a à moitié pris pour un SDF. C'est amusant aussi le regard que les autres ont pu avoir, parce que vous êtes un homme très très simple. Le confort, vous n'êtes pas à la recherche du grand confort, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le regard et la curiosité des autres. Mais que fait cet homme seul? Qu'est-ce qu'il fait là au milieu de ce bois, sur ce chemin? C'est assez drôle. Puis il y a les vaches aussi qui vous regardent. Alors vous-même aussi, vous vous demandez ce que les vaches peuvent bien penser.
Oui, ben, je pense... je parle aux animaux, ça peut paraître un peu idiot, mais par moments, je parle effectivement aux animaux. Et effectivement, je me pose des questions, à savoir... effectivement, ce que pensent les vaches de nous quand ils nous voient passer avec notre sac, ce que peuvent penser les escargots qui, en les imitant, en portant sa maison sur son dos, et puis de regarder, effectivement, de m'arrêter, puis de regarder toute une série de fourmis qui vous traversent là, d'un seul coup, vous faites attention de ne pas marcher dessus parce que vous vous dites. Eh bien, ils font partie de l'univers et ils ont leur rôle à jouer. Ou de m'arrêter parce que arrive une lait avec ses petits et qu'il faut faire attention de ne pas se faire attaquer par... voilà, ça, c'est le vécu du chemin. C'est effectivement, comme le dit Claudine, c'est quelque chose de... On ne peut pas... Les mots, on essaye, nous, dans nos écritures... de donner le plus de sens possible au travers des mots. Mais en fait, les mots appauvrissent réellement ce que l'on ressent. même si on essaye de trouver le bon mot, parfois on est étonné, c'est pas tout à fait ce qu'on a voulu dire. Et on cherche un mot, et de nouveau un mot, et en fait, on s'aperçoit qu'on n'y arrive jamais.
Oui, c'est ce que vous écrivez, page 77. On ne peut pas toujours expliquer ce que l'on ressent, parce que ce qui est dans notre cœur est souvent plus fort que les mots.
Exactement, exactement.
Je rappelle, Alain Lequien, dit Bourguignon, la passion. Alors, Alain Lequien
a... Je peux donner effectivement la raison du Bourguignon, la passion. Il se trouve que j'ai travaillé avec les Compagnons du Devoir. Décidément, on a beaucoup de choses en commun. Et que moi, je ne sais pas faire avec mes mains. Je suis plutôt quelqu'un d'intellectuel. Je ne sais pas faire à les mains. Et puis, j'ai eu l'occasion pendant de nombreuses années dans une vie précédente de recevoir des compagnons qui passaient. Et donc, le rouleur venait effectivement dans l'entreprise que je dirigeais. Et comme ils avaient... Comme je voulais apporter ma pierre quelque part un petit peu à ces jeunes qui plus tard peut-être deviendront des chefs d'entreprise. Et donc je leur donnais de façon bénévole, bien entendu, des cours sur le droit social, le droit des sociétés, le droit social et le droit des sociétés. Et en fait, en remerciement, les Compagnons du Devoir m'ont donné ce surnom. Voilà la raison.
Voilà. Alain Lequien dit Bourguignon, la passion, sur les pas de Sigéric, la Francigena de Calais à Aoste, 44 jours, 1134 kilomètres. Et puis, allez voir aussi le blog de Alain Lequien, www.bourguignonlapassion.fr. Je rappelle, voyage en pays sel, donc les gouaches d'Henri Vincenot. J'allais dire, comment dire, entouré de la poésie et des textes d'Olivier Delpart, et puis Claudine. Le vol de la Buse, réédité aux Presses de la Cité de Didier Cornaille. N'oublions pas aussi le roman de Didier paru en mars dernier, Gentille Blandine, toujours aux Presses de la Cité, et Sur les pas de Sigéric. Merci de votre écoute. Et vous pouvez applaudir nos quatre auteurs. Et merci à vous, en tout cas.
Toi qui arrives à peine, faudra vite te faire une place. Alors écoute bien, je vais tout raconter. Comme ça tu sauras d'avance où tu mettras les pieds. Quand tu tiendras debout pour la première fois, t'auras l'impression d'être invincible, d'être le roi. Et en grandissant, le roi perd sa couronne. C'est pas le tout de marcher, faut rendre des comptes aux grandes personnes. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Dehors pour la première fois, t'auras l'impression que le bout du monde est devant toi. Et en grandissant, le bout du monde s'éloigne. Du trottoir à la rue, la ville, le pays, chaque instant il s'éloigne. Quand t'iras à l'école pour la première fois, t'auras l'impression que c'est cool, qu'on rigole bien, tout ça. Et en grandissant, ça devient plus difficile. Tu t'accroches ou tu décroches, c'est plus du tout tranquille. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Quand tu tomberas amoureux pour la première fois, t'auras t'auras l'impression qu'il n'y a rien de plus beau sur terre que ça. Et en grandissant, l'amour te brise le cœur. Alors tu te méfies des filles, des femmes et du bonheur. Quand tu trouveras du travail pour la première fois, t'auras l'impression d'être condamné et de n'avoir plus le choix. Et en grandissant, tu comprends que le temps passe. Alors fonce, profites-en avant de laisser ta place. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route sans souci. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route sans souci. Écoute.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Votre Wagon Livre touche pratiquement à la fin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez pu entendre différents auteurs enregistrés en public lors d'une table ronde organisée par les bénévoles du Salon Mine de Livres qui s'est tenu le 10 octobre dernier en Saône-et-Loire, très précisément à Blanzy. Vous avez pu entendre notamment Claudine Vincenot, la fille de Henri Vincenot, accompagné d'Olivier Delbar, pour un recueil de reproduction de gouache d'Henri Vincenot, accompagné de textes poétiques d'Olivier Delbar. Ce recueil a pour titre « Voyage en pays celte » et il est disponible à l'atelier des Noyers. Vous avez également pu entendre Didier Cornaille évoquer « Le vol de la Buse », son premier roman, réédité cette année aux presses de la Cité. Mentionnons aussi le roman paru courant mars de cette année 2021 par Didier Cornaille, un roman intitulé « Gentille Blondine ». Et puis nous avons fini notre émission avec Alain Lequien, dit « Bourguignon, la passion » pour son récit de voyage sur les pas de Sigéric, la Francigena de Calais à Aoste, 44 jours, 1134 kilomètres. Un très grand merci à toutes et à tous. Je vous retrouve samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Nous serons avec Catherine Cusset pour son roman intitulé « La définition du bonheur » actuellement disponible en librairie aux éditions Gallimard. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain sur Radion.